Radio Canu 102.2, le mercredi 20h-21h, c'est l'émission Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire. Sur fond de cet hymne anarchiste de 1936 à Las Barricadas, version traditionnelle et puis version moderne, plus rock, c'est notre éternel générique depuis plusieurs décennies de cette émission Idées Noires, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h sur ce 102.2 de Radio Canu, la plus rebelle des radios. Idées Noires, c'est l'émission de Lucel, du groupe local de l'Union Communiste Libertaire, et on est ensemble pendant une heure pour une heure d'expression anarchiste. Idées Noires, c'est émission de reprise, un peu tardive en ce mois de septembre. On a eu du mal au redémarrage. D'ailleurs, on reprend doucement parce que ni mes camarades Rémi, ni Daniel, ni June ne sont de la partie ce soir. Je serai seul au micro. Mais on ne va pas tarder à reprendre à plein régime. Mais néanmoins, une petite émission de reprise pour relancer une nouvelle saison pour Idées Noires. Il y aura peut-être un peu plus de pause musicale ce soir. On verra si on tient jusqu'à 21h. Une heure. En tout cas, on est avec vous. C'est reparti pour une saison tous les mercredis soirs. Idées Noires, l'émission de l'UCL de 20h à 21h sur ce 102.2 de Radio Canu. Et comme d'habitude, ça, on ne va pas perdre nos bonnes habitudes. On commence par les rendez-vous et les annonces. On vous réannonce tout simplement traditionnellement que vous pouvez toujours rencontrer les militantes et les militants de l'UCL à la librairie La Plume Noire, librairie libertaire autogérée par les militantes et militants de l'UCL qui se trouve sur les pentes de la Croix-Rousse, dans le premier arrondissement de Lyon, 8 rue Diderot, à deux pas de la place Colbert, pour soit le métro Croix-Rousse, et on redescend un petit peu les pentes, soit il y a le bus 6 qui part depuis la place, depuis l'hôtel de ville, et qui s'arrête place Colbert, à deux pas de la librairie, ou alors on marche sur les escaliers, sur les pentes, pour se rendre jusqu'à la Plume Noire. En tout cas, la librairie La Plume Noire, elle sera cette année toujours ouverte, tous les samedis de 15h à 19h, pour vous accueillir, pour venir faire le point sur les luttes en cours, poser des questions sur l'UCL, l'anarchie en général, pour y trouver des livres, des revues, des tracts, brochures et autres. Et puis elle sera ouverte occasionnellement, simplement cette fois-ci le mercredi, ça sera plus systématique de 17h30 à 19h30. Et pour ça, il faudra suivre les réseaux sociaux, regarder les annonces sur les réseaux sociaux, sur lesquels seront annoncées chaque fois que, occasionnellement, la librairie sera ouverte le mercredi. Donc le plus simple, c'est de passer un samedi, puis tout simplement de demander à être inscrit sur la lettre d'information du groupe local de l'UCL Lyon, ou alors de nous suivre sur différents réseaux sociaux sur lesquels vous aurez aucun mal à nous trouver. Justement, à propos de La Plume Noire, il y a une activité qui est proposée, une activité publique, dès ce samedi, sur la fin de la permanence. Première initiative en cette rentrée dans les locaux de La Plume Noire, à l'initiative donc du groupe de Lyon de l'UCL. C'est un café libertaire qui est organisé ce samedi 21 septembre à 18h, donc dans les locaux de La Plume Noire au 8 rue Diderot, sur le thème « Droit à l'avortement, toujours plus menacé ?» Point d'interrogation. Et bien évidemment, on sait que la réponse est oui. Et on s'en attriste et que justement, il est temps de discuter, échanger, élaborer des stratégies pour défendre ce droit fondamental du droit à l'interruption volontaire de grossesse, qui est ce droit fondamental de toutes les femmes à librement disposer de leur corps, de leur contraception, de leur volonté d'avoir un enfant quand elles veulent, si elles veulent, avec qui elles veulent. Et bien évidemment, derrière le droit à l'avortement se pose la question du droit à la contraception, parce qu'on sait que si l'avortement n'est jamais une partie de plaisir, mais qui est un droit fondamental pour autant, la meilleure façon réduire le recours à l'avortement, c'est certainement pas de le réprimer et de l'interdire, parce que parfois c'est une nécessité et un choix qui ne se discute pas, mais c'est bien évidemment, c'est de développer l'accès à une contraception libre et gratuite, la plus large possible et la plus accessible à toutes. Donc voilà, derrière ce débat sur le droit à l'avortement, il y aura plus généralement l'accès au droit à la contraception libre et gratuite pour toutes et tous. C'est ce qui est proposé donc par les militantes et militants de l'UCL ce samedi 21 septembre à 18h dans les locaux de la librairie La Plume Noire au 8 rue Diderot, où il y aura une petite projection, puis suivie d'une discussion et puis des champs stratégiques sur cette question: comment défendre le droit à l'IVG, à l'interruption volontaire de grossesse, un droit qui est toujours plus menacé. Et puis sur la question, on pourrait dire des mobilisations féministes au sens large pour la liberté de choisir son identité, son orientation sexuelle. On voulait aussi vous faire part d'une mobilisation qui va avoir lieu dès demain. Dès demain, une mobilisation contre la transphobie. Demain, jeudi 19 septembre, puisque la militante transphobe Marguerite Stern est invitée demain jeudi à l'ICEP. L'ICEP, c'est l'école de Marion Maréchal Le Pen, tout est dit, vous allez me dire, à Lyon, dans le deuxième arrondissement, pour donner une conférence sur son livre Transmania. Et bien évidemment, ceci nous paraît inadmissible, et c'est pour ça qu'il est appelé par un grand nombre d'organisations, un rendez-vous contre la transphobie à 18h30 demain devant l'hôtel de région, arrêt hôtel de région sur la ligne de tram qui part depuis Perrache, pour se mobiliser, se rassembler contre la transphobie. Parce qu'on vous le redit, demain l'école de Marion Maréchal Le Pen invite donc Marguerite Stern pour présenter ce fameux livre Transmania. C'est un livre qui n'est qu'une fiction, hein, qui vise en fait à diaboliser les personnes trans et à proposer la haine, et qui ne se base sur aucune réalité scientifique. Il a, ce livre, notamment servi d'appui à la proposition de loi transphobe de LR qui visait à interdire la transition de mineurs, en complicité bien sûr avec l'extrême droite qui se faisait relais de ce discours nauséabond. Et puis on pourrait aussi rappeler que tout simplement, dans le monde, en 2023, on a compté plus de 300 personnes qui ont été tout simplement assassinées en raison de leur identité de genre, et que l'association SOS Homophobie, dans son rapport de 2023, elle a constaté une augmentation de 35% des situations de transphobie, que les personnes trans et leur existence sont pourtant encore et toujours niées, qu'elles sont psychiatrisées et pénalisées, et que tout simplement, on l'a dit, la transphobie tue, et c'est inacceptable, que les attaques envers le droit des personnes trans... elles s'inscrivent en fait dans une offensive, dans des offensives réactionnaires qui sont plus larges, comme on l'a vu aux États-Unis, où elles ont servi de préalable à mettre en cause ensuite le droit à l'IVG, et que la défense de ce droit, c'est une lutte féministe, et il n'y a pas de féminisme possible sans y intégrer les femmes trans, et que nous refusons l'instrumentalisation de la lutte pour les droits des enfants ou du féminisme à des fins transphobes, et que nous rappelons que, par exemple, que Marguerite Stern, cette sinistre personnage qui vient intervenir demain à Lyon, elle ne s'arrête pas à la transphobie, qu'elle est actuellement aussi en procès pour des propos xénophobes et racistes. Et c'est pour ça qu'on vous invite à être nombreux et nombreuses demain, jeudi 19 septembre, à 18h30 sur l'esplanade François Mitterrand, on vous l'a dit, arrêt tram hôtel de région, devant l'hôtel de région, pour montrer notre unité face à la transphobie et à ses représentantes à Lyon comme ailleurs. Manifestation qui est appelé donc par de très nombreuses organisations, associations comme SOS Homophobie, organisations syndicales comme Solidaire, associations comme Riposte Trans, et puis des organisations politiques comme donc justement notre organisation, l'Union Communiste Libertaire. Mais on pourrait citer aussi la Jeune Garde ou le MNL, le Mouvement National Lycéen, et beaucoup d'autres encore qui seront présents demain. Et puis on a appris aujourd'hui, parce que le pouvoir est toujours du côté des réactionnaires, que tout rassemblement était interdit dans un périmètre autour de l'ICEP, autour de l'école de Marion Maréchal Le Pen. Tout rassemblement et manifestation politique qui sera interdite demain en fin de journée. Et donc le rassemblement par la préfecture du Rhône, le rassemblement par contre est autorisé devant l'hôtel de région, mais sera confiné devant l'hôtel de région et certainement bien encadré et surveillé. Mais n'empêche, il faut en être et il faut être présent pour lutter contre la transphobie. Voilà, c'est avec ces deux rendez-vous. Demain, rassemblement contre la transphobie devant l'hôtel de région à Lyon. Et puis, samedi, on vous l'a dit, à 18h, à la librairie La Plume Noire, un café libertaire, café débat sur la question du droit à l'avortement, un droit malheureusement toujours de plus en plus remis en cause. Voilà, c'est avec ces deux annonces qu'on voulait commencer cette émission Idées Noires, cette émission de l'Union Communiste Libertaire sur 102.2 de Radio Canu. On va faire une première pause musicale, on va aller retrouver MC Pampi, le rappeur stéphanois qui chante en gaga, qui nous avait habitué à ses hymnes en vert et blanc en hommage à la SSE, et qui sur son deuxième album qui s'appelle Sur le banc de touche, bien sûr, fait toujours part de sa ferveur verte, mais au-delà de ça, un certain nombre de morceaux qui sont bien plus politiques qu'on pourrait y croire, un certain nombre de morceaux qui parlent de faits de société, d'un certain nombre de choses qui nous touchent et de valeurs qu'on partage avec lui. C'est pour ça qu'on s'est permis, au-delà de cette étiquette footballistique, de passer ce morceau de MC Pampi, ce rappeur stéphanois qui chante en gaga et qui, dans un morceau qui s'appelle Boum Boum Badabeu Bye Bye, et ben justement dit bye bye à tous les réactionnaires, à tous les sexistes, à tous les racistes qui n'ont pas compris qu'on était fait pour vivre ensemble par-delà nos différences sur cette planète et qu'au contraire, la diversité, ça enrichit.
Foi, nom de night, on dirait que ça sent pas bon. Plus les années passent, plus y'a de promos sur les queues. Si les socs toute l'année se reproduisent des bras lapins, moi ça me fout les boules comme un Noël sur les sapins. On est homo sapiens, le reste c'est de la paperasse. En cours d'évolution, beaucoup dormaient au fond de la classe. Ou alors ils ont fait pied, du coup ils ont pas su que c'est grâce au mélange que notre espèce a survécu. Enfin je dis oh, chacun fait sa tambouille. Tu kiffes ton cousin, t'étonnes pas que ça parte en couille. Regarde dans les stocks, t'entends encore des cris de singes. Quand la consanguinité a des méfaits sur les méninges. Les fans de la Nistère qui vivent dans délivrance. Rêve de Christine Boutin en Marianne des mairies de France. Les gens aiment bien vivre dans leur coin. Ils ont peur de ceux qu'ils ne connaissent que de loin. Dès que c'est le babo, faut trouver un fautif. Pour le dernier arrivé, c'est séance des bords-pif. Hier c'était les cousins, aujourd'hui les Syriens. Demain les Inuits, les Végans, les Martiens. Et viens pas me parler de ceux qui roulent en trottinette. Ils me saoulent, mais bon, elle est aussi à eux la planète. Alors casse pas le peignoir avec tes délires d'arrière. T'es comme Eric Zemmour, tu sers à rien. Détends-toi du slip, Loïc et ma cuisine. En entrée sur raclette, on peut pas faire des sertanines. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Et vous vous chantez, Marion Maréchal, nous volons. Si les bandes savaient voler, on serait moins nombreux sur Terre. Mais ils continueraient de polluer, hein. Ce qui reste d'atmosphère.
MC Pampi avec Boum Badabeu Bye Bye, tiré de son album Sur le banc de touche, pour dire bye bye à tous les réactionnaires et tous les racistes et sexistes en tout genre. Comme quoi, dans le monde du football, il n'y a pas que des supporters bas du front racistes et nationalistes, bien au contraire. MC Pampi en a un bel exemple, on est content de le passer sur 102.2 de Radio Canu, dans cette émission Idées Noires. On va poursuivre cette émission avec une petite note de tristesse, en rendant dans cette émission de rentrée, en rendant hommage à deux camarades qui nous ont quittés durant cet été, qui nous ont quittés depuis qu'on a fait la dernière émission fin juin dernier, et dont on voulait dire deux mots parce que on est attristé par leur départ, et que c'est des camarades qu'on a eu à croiser à de nombreuses reprises dans les luttes et qui ont compté. Le premier de ces camarades, c'est Julien Terzic, Red Warrior, militant antifasciste guitariste de longue date, batteur du groupe de street punk Oi La Brigada Flores Magón, Julien Terzic, qui s'en est allé le 1er juillet dernier à l'âge de 56 ans, emporté par le crabe, par un cancer qui l'a terrassé et qui a fait que il est bien sûr parti trop tôt et parti trop vite. Julien Terzic, c'était un militant antifasciste, on le disait, dans les années 80. Il avait été un des fondateurs et un des membres actifs des Red Warriors qui contribuaient à la chasse aux faves sur la région parisienne. Il avait ensuite, avec certains de ses acolytes des Red Warriors, participé toujours dans les années 80 au service d'ordre des Berruriers Noirs et assuré le service d'ordre d'un grand nombre de concerts de rock alternatif et de concerts de soutien. Et puis, à la fin des années 90, en tant qu'intermittent du spectacle, en tant que travailleur syndiqué du spectacle, il avait rejoint la CNT, la Confédération Nationale du Travail, son syndicat Culture Spectacle de la région parisienne, avec lequel il avait mené un certain nombre de luttes, dont notamment durant l'été 2003, lors de la grande grève des intermittents du spectacle, à l'époque où il était rodise, et il avait mené de nombreuses luttes syndicales dans le cadre des luttes interprofessionnelles, et Julien Terzic était même devenu, avait même été mandaté secrétaire confédéral de la CNT durant un mandat, durant 2 ans, et occupé des fonctions importantes au sein de cette organisation anarcho-syndicaliste, doublant son activisme antifascisme d'un activisme syndicaliste révolutionnaire et anarcho-syndicaliste qui l'avait accompagné, qui l'avait mené durant une dizaine d'années, en même temps qu'il avait rencontré d'autres acolytes au sein de la CNT avec qui il avait créé le groupe Brigada Flores Magón, qui durant le début des années 2000 avait été un des porte-voix de la scène rock radicale sur la question notamment de l'antifascisme et d'autres luttes encore. Julien, bien évidemment, était un camarade. Julien Terzic, à travers son engagement, on se devait de lui rendre hommage, de dire 2 mots. Et pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur la vie, l'engagement de Julien Terzic et l'activité de son groupe, la Brigada Flores Magón, dont bien sûr le décès de Julien va sonner le glas, et ben on vous invite à rester à l'antenne de Radio Canu, puisque à partir de 21h, dans l'émission suivante, je vous retrouverai dans la bande son de nos révoltes pour une émission spéciale, justement, d'hommage à Julien Terzic, qui est consacré à la Brigada Flores Magón, sur cette antenne de Radio Canu de 21h à 22h. Voilà, et puis Julien Terzic, donc décédé 1er juillet dernier, et qui a été enterré avec les hommages devant plusieurs centaines de militants antifascistes et libertaires au cimetière du Père Lachaise le 11 juillet dernier. Et puis un peu plus d'un mois plus tard, le 6 août dernier, c'est Claire Ozias qui nous a quittés. Claire Ozias, qui était une historienne, une écrivaine, militante anarchiste et féministe lyonnaise, qui avait publié de nombreux ouvrages consacrés aux luttes sociales, notamment un très bel ouvrage sur la grève des ovalistes à Lyon, et qui a aussi donné de très nombreuses contributions à la presse libertaire, dans de nombreuses revues. On pourrait aussi citer dans ses ouvrages son livre sur le trimard, sur les mauvais garçons de mai 68. Claire Ozias, c'était en effet nullement coupée des luttes concrètes de sa jeunesse, puisque de sa jeunesse à son décès, elle avait été en fait sur tous les fronts du mouvement de mai 68, qui avait marqué le début de son engagement, où elle avait activement participé aux mobilisations à Lyon, justement, au combat antifasciste et antiraciste de ces dernières années, notamment aux côtés de la défense des Roms, comme aux luttes féministes. C'était une intellectuelle tout le temps engagée, une militante anarchiste qui se sentait proche aussi du mouvement anarcho-syndicaliste, puisqu'elle avait, par exemple, contribué à la revue théorique Les Temps Maudits de la CNT, à laquelle elle donnait régulièrement des articles. On vous l'a dit, elle s'était énormément investie du côté de la commission, des luttes de défense des gens du voyage, et avait publié d'ailleurs plusieurs livres sur l'histoire de la communauté rome. En tout cas, la disparition soudaine de Claire Osias, elle aussi emportée par le cancer à plus de 70 ans, et bien sûr une perte pour le mouvement libertaire. Claire Osias n'a pas réalisé son rêve qu'elle avait évoqué à plusieurs reprises de finir sa vie en communauté, mais il est certain qu'elle et ses écrits demeureront dans la mémoire et la pratique collective de celles et de ceux qui continuent aujourd'hui à lutter. Et puis pour tous ceux qui voudraient savoir un peu plus sur Claire Osias, donc qui nous a quittés à 75 ans ce 6 août 2024, on vous invite à lire son histoire qu'elle avait elle-même racontée dans un livre d'entretien qu'elle avait accordé à Mimmo Pucciarelli, militant libertaire lyonnais bien connu. Ce livre qui s'appelle Claire l'Enragée, qui était paru en 2006, bien évidemment aux éditions de ACL, de l'Atelier de création libertaire de Lyon. Ce livre, c'est en fait un récit sans voile, c'est un témoignage qui peut parfois paraître dérangeant, mais qui est souvent bouleversant, et qui restitue notamment très bien la dureté d'une époque où elle a commencé son engagement, celle de l'après-mai 68, où se sont malheureusement perdus dans les sables mouvants d'une inacceptable retour à la normalité militante, de fougueux militants qui étaient partis dans l'effervescence et l'espoir d'un changement social profond. Et en fait, de cette époque de jeunesse, Claire en avait gardé une fidélité à la marge que le passage du temps n'a jamais écorné, en fait. Et elle s'est toujours intéressée aux marges, justement à cette rimardeur, par exemple, de l'après-mai 68, ce qu'on a appelé aussi les Katangais, par exemple, les Apaches ou autres, comme si dans le fracas, en fait, des premières secousses, le diamant noir de la révolte l'avait marqué de son éclat pour toujours. Et il est des existences, en fait, comme celle de Claire Osias, où tout s'apprend dans l'expérience des passions, comme celle de mai 68. Et son mai 68 lyonnais, ce fut son marqueur qui l'a accompagné toute sa vie. Un ineffaçable éclat d'anarchie à particules différées et à effets très prolongés. Et elle pensait qu'il fallait perdurer cet esprit. C'est ce qu'elle évoquait, et ces quelques lignes, ces quelques remarques dont on vient de vous faire partager, sont celles qui ont été écrites par son ami Freddy Gomez. Freddy Gomez sur son blog qui s'appelle À Contre-temps, un blog qu'on vous invite à aller consulter, qui est marqué de très nombreux beaux textes, et sur lequel vous trouverez un très bel et très long hommage à Claire Osias, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur qui elle était. Et puis surtout, on vous le dit, à vous procurer ce livre, tiens, par exemple à la librairie La Plume Noire, où vous le trouverez en rayon, ce livre qui s'appelle Claire l'Enragée, un livre d'entretien avec Claire Osias, réalisé par Mimmo Pucciarelli aux éditions ACL, aux éditions de l'Atelier de création libertaire. Voilà, ces deux hommages à Claire Osias, à Julien Terzic de la Brigada Flores Magón, et justement le morceau qui suit, il aurait dédicacé à tous les deux, inévitablement, la Brigada Flores Magón, avec le morceau Folle Semence, un titre qui leur va si bien. classe ni état, point levé contre capital. Voilà des paroles qui sonnent si bien dans cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire. Comme tous les mercredis sur ce 102.2 de Radio Canu, la plus rebelle des radios, c'était bien sûr la Brigada Flores Magón, groupe de Julien Terzic à qui on a rendu hommage et on vous l'a dit à 21h sur cette même antenne, émission spéciale de la bande son de nos révoltes en hommage à Julien Terzic et à la Brigada Flores Magón. Ni classe ni état, point levé contre le capital, c'est aussi rien de tel que pour rentrer dans une page sociale dans cette émission Idées Noires, dans une page sociale parce que il est largement temps de tourner et zapper l'interminable feuilleton de qui siégera à Matignon et qui fera quoi maintenant que la droite extrême avec Barnier ont été mis dans la place, pour combien de temps, peu importe, et en tout cas c'est toute la question. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que finalement c'est dans la rue que notre avenir se décidera, et qu'il y a un premier rendez-vous de mobilisation qui est appelé par les syndicats le mardi 1er octobre prochain. On vous en reparlera dans les futures émissions d'Idées Noires, mais ça va être un rendez-vous important de cette rentrée sociale, et on espère qu'il ne sera pas une simple manifestation de rentrée pour dépoussiérer les drapeaux syndicaux, mais qu'au contraire ça sera un acte de mobilisation du mouvement social qu'en appellera d'autres pour créer un rapport de force face à ce gouvernement réactionnaire qui va se mettre en place. En fait, Macron, en cherchant à contourner le résultat d'un scrutin bâclé qu'il a lui-même provoqué au début de l'été prochain, a en fait franchi un pas supplémentaire vers l'autoritarisme, c'est évident pour tout le monde. Une tendance qui est toujours plus inquiétante quand même dans un régime présidentiel parmi les plus monarchiques d'Europe, où malheureusement, on l'a vu, ça a été une des leçons des élections du mois de juin, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Et en fait, pour maintenir la politique néolibérale et pro-capitaliste qui est la sienne, bah Macron a pris tout son temps cet été, pendant que l'ensemble des partis politiques défilaient à l'Élysée pour réclamer Matignon. Et ben les ministres d'un gouvernement démissionnaire ont eux poursuivi la casse des services publics et puis l'austérité au titre de la gestion des affaires dites courantes. C'était un spectacle ubuesque, on pourrait dire, hein, d'un système politique et économique qui en fait est à bout de souffle. C'était un véritable mépris de la volonté populaire, et on peut se demander si ce mépris sera-t-il pas celui de trop. Ça va dépendre en grande partie justement de la capacité du mouvement social à faire maintenant entendre sa voix et à rentrer dans la danse, parce que constatant le déni présidentiel, par exemple certains partis du Nouveau Front Populaire ont appelé à manifester le 7 septembre dernier et réappellent ce samedi à manifester ce samedi 21 dans la même dynamique pour obtenir que Macron revienne sur ses pas, démette Barnier et nomme un Premier ministre issu du nouveau Front Populaire qui est sorti premier des urnes. Mais quel sens cela a-t-il aujourd'hui de manifester pour réclamer un gouvernement social-démocrate qui est pour autant dépourvu de majorité présidentielle, si on a pu voter et faire nouveau Front Populaire pour faire barrage au Rassemblement National en juin et juillet dernier, c'était bien sûr sans illusion ni scrupule, mais on n'en attendait pas grand chose et rien de plus, comme on n'attendra rien du gouvernement technique que Macron va finir par désigner, ou le gouvernement réactionnaire qui risque de se mettre en place avec Barnier sous contrôle de l'extrême droite. En tout cas, le répit qu'on a obtenu face à l'extrême droite, cette situation d'immobilisme institutionnel, il faut aujourd'hui le mettre à profit pour faire entendre nos revendications sociales, pour renforcer les outils de l'autonomie populaire, pour renforcer les comités de quartier, les syndicats de lutte en premier lieu. Et on sait que c'est le rôle des militants révolutionnaires, comme les militants anarchistes et notamment les militants de l'Union communiste libertaire, de faire tout leur possible pour que le mouvement social avance et grandisse en imposant une ligne antifasciste et antiraciste claire. On sait que c'est là le vrai rempart contre l'extrême droite, contre son arrivée au pouvoir, puisque tout est encore permis dans la perspective de 2027 pour l'extrême droite. Et contre sa politique, bien évidemment, si jamais l'extrême droite finit par s'emparer du pouvoir. Une situation et une nécessité de se mobiliser qui est d'autant plus urgente avec la nomination donc de Barnier comme Premier ministre et donc ce gouvernement de droite extrême sous bienveillance et surveillance de l'extrême droite qui va se mettre en place dans les semaines qui arrivent avec des mesures certainement réactionnaires et en tout cas qui continueront, on l'a dit, au plan économique et social, l'œuvre de démolition sociale qui a été menée par la Macronerie. Alors, face à ça, à nous de nous organiser, à nous de faire du lien, à nous d'agir cette fois-ci collectivement et faire que le mouvement social s'invite dans la danse pour changer la donne, pour renverser le rapport de force. Et c'est pour ça qu'il faudra être dans la rue et en grève le 1er octobre prochain, à l'appel d'une intersyndicale, CGT, FSU, Solidaire, CNT, pour reposer la question de la répartition des richesses et demander l'augmentation des salaires, pour abroger la réforme des retraites, cette réforme injuste et violente qui nous a été là encore imposée de manière des plus autoritaires, et puis aussi pour redéployer les services publics sur tout le territoire. Ça sera une première étape, cette grève du 1er octobre, qui sera déterminante tout simplement pour mesurer la combativité de notre camp social dans l'année qui s'annonce. Et on va travailler partout où c'est possible au succès de cette journée d'action et puis bien sûr encore plus au succès des suivantes. Allez, nouvelle pause musicale dans cette émission Idées Noires. On retrouve les Calavera qui nous chantent le J'observe.
Je suis qu'un morceau de brutalité, un bruit de verre, une barricade mal démontée, un bruit de guerre, un ersatz d'immoralité, une suie de mer, chiffon d'un cocktail enflammé, un débris de grenade incendiaire. J'ai trop d'amour pour mes plaies, pour les cris et pour les cimetières. J'observe sans cesse le temps passé, et toujours sans prière. J'ai passé ma vie à espérer que mon contact avec l'autre soit moins de pierre. Mais noyer le moine et brûler l'aumônière sont restés dans ma mère comme le seul moyen de m'en sortir. Agir pour ne pas passer mes années à noircir ces feuilles inutilement et me sentir exister comme un chevalier le jour de son adoubement. Je suis qu'un pari à du présent. Et dans le futur, la seule chose que j'observe, c'est le chaos puis le néant. Devant la fosse et l'attroupement, et quoi que je crois, je suis pas sorti des rangs. Toujours à espérer l'amour et avoir peur de la mort. Toujours à montrer des contours. Sans courage transpercer leur corps, toujours la rage. Mais à l'aide pas de passage, belle révolte, compter des thunes pour le prochain présage. Mais pour les poseurs de bombes, toujours pas de présage. J'ai bien forgé ma cage, mais c'est moi qui les clés. Et au fond de ma gorge, la poutre, j'ai bientôt fini de la racler. Ouais, j'ai les crocs comme un loup affamé. Mais je parvais déjà louveteau, aimer le goût et l'odeur du cramé. Je n'ai qu'une voix, qu'une issue, pour ne pas finir reclus. Je n'ai qu'une voix, qu'une issue, elle n'est pas dans vos vertus. Je n'ai qu'une voix, qu'une issue, même si à la vie je m'évertue. Je n'ai qu'une voix, qu'une issue, dans du silence de nos rues. Je n'ai qu'une voix, qu'une issue, pour ne pas finir reclus. Je n'ai qu'une voix, qu'une issue, elle n'est pas dans vos vertus. Je n'ai qu'une voix, qu'une issue, même si à la vie je m'évertue. Je n'ai qu'une voix, qu'une issue, dans du silence de nos rues. J'ai guerroyé avec moi-même, entre mon amour et ma haine. J'ai guerroyé avec ceux que j'aime pour qu'ils me serrent une vie saine. Mais on m'a pas convaincu, alors je suis allé là où je croyais être mon camp, voir comment ils et elles vivaient. Présent. Mais ils m'ont pas convaincu. Comme bande de patch, définis le degré d'engagement. Quand finalement on se masturbe sur la misère des temps. Encore merci à ceux qui crèvent de donner des raisons de vivre aux combattantes et combattants. T'as vu, j'ai bien féminisé mon texte. Je te le dis, je suis pas sorti des rangs. Quand j'entends celle que féministe avec, j'ai pas franchement envie de me battre, ni avec ni pour ces gens. L'extrême gauche a même des doctrines sur le sexe. Et pourrait te fliquer jusque dans ton pieu. Comme l'église en d'autres temps, y'a trop de pression sur les consciences. Pour vivre librement, y'a peu de passion et tant de carences et tant de sous-développement. Je suis pas le premier dans la balance à chercher une sortie. Car entre l'amour et la mort, je crée un carcan d'obsession et de la tour des mots. Je scrute cette sordide procession. Entre ton regard et ma haine, je crée un carcan d'obsession et de la moelle de mes os. J'écris ce sordide horizon et en attendant, tristement, j'observe. En attendant, tristement, j'observe. Je n'ai qu'une voix, qu'une issue, pour ne pas finir reclus. Je n'ai qu'une voix, qu'une issue, elle n'est pas dans vos vertus. Je n'ai qu'une voix, qu'une issue, même si à la vie je m'évertue. Je n'ai qu'une voix, qu'une issue, dans du silence de nos rues. Je n'ai qu'une voix, qu'une issue, je n'ai pas finir reclus. Je n'ai qu'une voix, qu'une issue, elle n'est pas dans vos vertus. Je n'ai qu'une voix, qu'une issue, même si à la vie je m'évertue. Je n'ai qu'une voix, qu'une issue, dans du silence de nos rues. Alors j'observe, attendant de poser des bombes, pour qu'enfin la violence s'éclate. Les épaules, car y a pas d'issue, donc je n'ai pas d'y passera. Douleur, sordide artifice, poser des bombes, pour qu'enfin la violence s'éclate. Alors j'observe attendant de poser des bombes, pour qu'enfin la violence s'éclate. Poser des bombes, car y'a pas d'issue, donc tu n'as pas d'y passer. Former des ronds, chaîner une identité trop lisse. Poser des bombes, pour qu'enfin la violence s'éclate.
Quel Calavera avec J'observe sur 102.2 de Radio Canu. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Idées Noires, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h. L'émission du groupe local, de groupe lyonnais, l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. Et on va continuer avec une page sociale. Notre camarade Daniel n'est pas là pour nous faire le tour des luttes et nous donner ses nombreuses luttes sociales, mais ça ne saurait tarder son retour. Et est-ce qu'on retrouve ces rubriques habituelles? En attendant, on va vous faire partager deux brèves sociales. Tout d'abord sur l'après-Jeux Olympiques, tout simplement, parce que les Jeux Olympiques de Paris 2024 viennent de s'achever dimanche 8 septembre dernier, avec la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques. Mais les JO n'ont pas fini pour autant de faire parler d'eux, parce qu'une vingtaine de salariés du comité d'organisation des Jeux Olympiques se préparent à aller devant les prud'hommes avec l'appui de la CGT pour faire reconnaître une situation de surexploitation. Alors, quel est l'objectif de cette démarche? C'est tout simplement de faire requalifier leurs contrats à durée déterminée qui ont été signés en forfait jour, en des contrats classiques, avec à la clé le paiement d'heures supplémentaires et majorées. Parce que, en effet, ce fameux forfait jour a en réalité signifié pour de nombreux salariés précaires des semaines, écoutez bien, de 60 à 80 heures de travail. Et ce type de forfait qui a été créé initialement pour les cadres, mais qui est de plus en plus dévoyé par les employeurs, doit normalement, légalement, s'accompagner d'une relative autonomie dans l'organisation du temps de travail. Or, toutes les enquêtes syndicales et journalistiques qui ont été montées ont démontré que l'existence de planning et de contraintes mettant en doute la pertinence d'un tel forfait jour pour ces salariés mobilisés intensément sur le terrain durant les JO. Alors si pour l'heure c'est seulement une vingtaine de salariés qui sont engagés dans la démarche, leur nombre pourrait très rapidement tripler ou quadrupler selon l'information qu'on a, et si justement cette information se diffuse parmi tous les salariés qui ont été mobilisés pour l'organisation de ces Jeux Olympiques. On sait qu'il y a eu 3200 salariés justement qui ont travaillé pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques fin août. 2800 de ces 3200 étaient des contrats à forfait jour. 2800 contrats à forfait jour ont été signés. Et si l'on arrive à démontrer du coup qu'il y a énormément de salariés concernés, cela peut permettre finalement d'ouvrir une procédure pour travail dissimulé, car ce sont en fait des milliers d'heures supplémentaires qui sont envolées, qui n'ont pas été payées. Dimanche 8 septembre dernier, la polémique elle avait gonflé en interne, et il y avait même eu un comité social et économique extraordinaire qui s'était tenu au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques, dont on n'a malheureusement pas connu le résultat. Mais deux jours avant la réunion de ce comité social économique extraordinaire, le vendredi 6 septembre, c'était 6 salariés qui avaient déployé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui travaillaient à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui avaient débrayé pendant une heure pour faire entendre leurs revendications, et qui étaient soutenus par plusieurs de leurs collègues. Et en fin de semaine dernière, la CGT a pour sa part reçu une fin de non-recevoir la direction du comité d'organisation des Jeux Olympiques à sa demande d'être reçu pour être entendu sur cette question. En tout cas, on voit que derrière les paillettes et les cérémonies d'ouverture et de clôture fastidieuses, on risque d'entendre encore parler largement des Jeux Olympiques et de leur face obscure, de l'emploi de travailleurs sans papier dans les mois qui ont précédé l'organisation de ceux-ci sur les chantiers des différentes installations sportives, comme aujourd'hui de ces travailleurs qui ont été surexploités 60 à 80 heures par semaine au cours de ces Jeux Olympiques. Autre brève qu'on voulait vous faire partager sur le front de la question sociale, le fait que les revenus du travail aujourd'hui baissent, alors que inversement les dividendes mondiaux battent des records. Vous allez me dire, ça vous surprend certainement pas. C'est ce qu'on dénonce régulièrement dans cette émission Idées Noires, mais cette fois-ci, c'est pas nous qui le pointons du doigt, c'est tout simplement l'Organisation Internationale du Travail, l'OIT, qu'on est loin d'accuser de complaisance avec les mouvements anticapitalistes, qui alerte, l'OIT alerte sur l'aggravation des inégalités, et selon son rapport de septembre 2024, donc qui vient tout simplement de sortir sur les perspectives sociales et de l'emploi dans le monde, l'OIT reconnaît que la part des revenus du travail a baissé de 0,6 points à l'échelle planétaire entre 2020 et 2022. Alors, pour parler plus clairement de quoi s'agit-il, la part des revenus du travail en fait mesure la proportion du revenu total d'une économie que les personnes gagnent en travaillant. Et celle-ci est tombée, cette part est tombée à 52,3% en 2022. Ces revenus s'additionnent aux revenus du capital pour former le revenu total d'une économie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les revenus d'une économie, seulement 52,3% de celle-ci est produit par le travail. Le reste étant le produit de la spéculation et de la finance. Et en fait, tout simplement, on assiste à 20 ans de baisse de revenus du travail. Alors bien sûr, la pandémie de Covid-19 explique en partie la baisse observée entre 2020 et 2022, mais la diminution de la part des revenus du travail se poursuit depuis, en fait, dans la réalité, au moins 20 ans. Et en effet, c'est depuis 2004 que cette part a chuté de 1,6 point. Pour la seule année 2024, cela représente une perte de 2 400 milliards de dollars pour les travailleurs à l'échelle mondiale. Et la principale cause de cette baisse au cours des deux dernières décennies est l'évolution technologique, notamment l'automatisation d'un certain nombre de tâches dans l'industrie. Et aussi, l'Organisation internationale du travail note qu'elles ont stimulé pourtant la productivité et la croissance économique. Les travailleurs n'ont pas bénéficié équitablement des gains qui en ont découlé. Autant dire que c'est allé dans les poches d'une minorité. Et pour noircir même le tableau, les inégalités ne se limitent pas à la répartition des revenus entre capital et travail, parce qu'en plus d'une distribution inégale de cette répartition selon les zones géographiques, l'écart de revenus, par exemple, entre les femmes et les hommes reste immense et ne se réduit que très marginalement au fil du temps. En moyenne, le rapport de l'OIT nous apprend que dans le monde, lorsqu'un homme gagne 1 dollar, une femme n'en gagne que 0,518, en gros, quasiment la moitié, un demi-dollar, pendant qu'un homme en gagne 1. Et en 2007, une femme en gagnait 0,47. Aujourd'hui, elle en gagne 0,51. Autant vous dire qu'à ce rythme constant, l'égalité ne serait atteinte qu'en 2221. Donc, il va falloir qu'on se retrousse les manches si on veut obtenir l'égalité salariale homme-femme, parce qu'on est très loin du compte, très loin du compte. Et puis, ce qu'on peut constater aussi dans ce rapport, c'est que si je travaille et si tu travailles, eux, ils profitent, parce que si la part des revenus du travail baisse dans le monde, on ne peut pas en dire autant pour celle du capital, puisque mardi 10 septembre dernier, le cabinet Janus Henderson a annoncé qu'au second trimestre 2024, les grandes entreprises cotées ont distribué 606 milliards de dollars à leurs actionnaires, 606 milliards de dollars à leurs actionnaires depuis le début de l'année, simplement au cours du second trimestre 2024, soit en gros 5,8% de plus que l'année précédente, une année qui était pourtant déjà marquée par un record comme celle des années 2022 et 2021. En gros, ça fait 4 ans qu'on bat systématiquement les records des revenus du capital et où les dividendes versés aux actionnaires ne cessent d'augmenter et ne cessent d'être de plus en plus importants. Alors, dans ce constat mondial, l'Europe, elle est particulièrement bien placée au point de vue de la répartition mondiale des dividendes, puisqu'elle enregistre une progression de 7,7% grâce à des montants records. Où ça, me direz-vous? En France, en premier lieu, mais aussi en Italie, en Suisse, en Espagne, La France, elle affiche à elle seule près de 60 milliards, 58,6 milliards exactement de dollars sur les 204,6 absorbés par les actionnaires. Des chiffres qui devraient donc très clairement éclairer les débats sur le déficit budgétaire et les prochains projets de loi des finances en France, alors qu'en fait tout indique que le gouvernement Barnier se prépare à nous faire avaler une cure d'austérité, alors que comme on le dit souvent, ben on le voit encore une fois, de l'argent il y en a, où ça? Dans les caisses du patronat et des actionnaires, que la crise elle est à la bon dos, on tente de la faire payer aux travailleurs, mais qu'il n'y a pas de crise du tout d'après ce rapport de l'Organisation Internationale du Travail, que c'est simplement une question de choix de société, que c'est simplement une question de choix de répartition des richesses. Allez, sur ces paroles, on va justement faire une nouvelle pause musicale en retrouvant un nanar bien énervé. C'est un nanar bien énervé, c'est Dédé. Dédé, c'est cette chanson de nos camarades de Joe Staline, groupe lyonnais qui n'existe plus aujourd'hui et qui, à la fin des années 90, sur leur album La Lutte Continue, avait écrit cet hommage à ce vieil nanar Dédé. Et ce morceau Dédé, ils avaient décidé d'en verser les droits à la librairie La Plume Noire, qui en 1996 avait été victime d'un attentat fasciste. Les Joe Staline sur ce 102.2 de Radio Canu dans cette émission Idées Noires avec ce morceau Dédé.
Dans un coin paumé du Trégor, à quelques mètres d'un vieux port, survit encore dans son troquet le vieux Dédé. Il est connu pour sa légende, ses coups de gueule et ses esclandres qui habitent son passé, le vieux Dédé. Paris me gonflait les noix, ce bled empesté, le bourgeois, l'oseille, les maquereaux, les condés, c'est pour ça que je me suis cassé. Servir aux cravateuses austères du jean ou du Johnny Walker n'était que pure complicité, s'en indignait le vieux Dédé. Et sa spécialité d'antan, c'était de rendre mécréants quelques agneaux christianisés, le vieux Dédé. Le porte-soutane stupéfait de voir que sa tôle se dépeuplait allait tenter de raisonner, le vieux Dédé. Et si ton Jésus était né dans un bordel de Judée, poserais-tu sur ton sapin de Noël de jolis catins? Allez, retourne à ta calotte, laisse-nous à nos histoires culottes, car nos sexes sont pâtés, lui répondait le vieux Dédé. Et quand l'instituteur venait s'enfiler un petit beaujolais de pédagogie, ça causait chez le Dédé. Pour que le peuple soit marteau au point de voter pour ses bourreaux, il a bien fallu l'éduquer, pensait Dédé. Ça se fabrique un travailleur, ça se façonne un électeur et ça s'engraisse un député dans les petits fours de l'Assemblée. Les prêcheurs du temple laïc ont remplacé les catholiques pour que t'adhères au confouré de l'État, lui disait Dédé. Il se chopait de l'urticaire chaque fois qu'un champ militaire ramenait ses quintes simplifiées, le vieux Dédé. Pas besoin de s'appeler Einstein pour mépriser ses tronches à beigne rythmées dans la chiure dégradée, lançait Dédé. L'armée s'est toujours justifiée sur des cadavres faisandés qui en tant que tels ont bien servi les intérêts de la bourgeoisie. On vient au monde à ce qu'on m'a dit, pas à l'Europe d'aujourd'hui ni à la France de l'an passé, me gonflait plus que les Dédés. C'est cette année qu'il va fêter ses 70 balais entre un calvin, 20 muscadets, le vieux Dédé. On dit qu'un anard ça boit pas, moi je réponds y'a pas de loi. Et les copains qu'est-ce vous buvez, demande Dédé. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai pas l'air d'un empoté, que la vieillesse va bouffer dans un ghetto civilisé. À ma mort jetez-moi en mer, car vous savez les cimetières, c'est encore la société, finit par conclure un Dédé.
Allez, après le Dédé des Joe Staline, on va faire un petit tour, une petite page internationale pour terminer cette émission Idées Noires. On va aller faire un petit tour du côté de ces territoires appelés ultramarins, départements et régions d'outre-mer, héritage de la France coloniale, puisque depuis le 1er septembre, un mouvement social contre la vie chère et les injustices prend de l'importance en Martinique, mais aussi en Guadeloupe et à La Réunion. Et cette colère populaire, en fait, est réprimée sévèrement par l'État français qui cherche à faire taire et aussi à garder le contrôle de son empire colonial. Alors c'est un mouvement qui est parti à l'initiative du Rassemblement pour la protection du peuple des ressources afro-caribéennes, le RPPRAC, où des centaines de personnes ont manifesté et ont organisé des blocages de grande surface pour exiger un alignement des prix sur ceux de la métropole, car les produits alimentaires sont en moyenne 40% plus chers aux Antilles que dans l'Hexagone. Et en fait, 15 ans après le soulèvement populaire en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane contre la profitation, c'est-à-dire l'exploitation outrancière par les capitalistes qui contrôlent les moyens de distribution, le problème il reste entier dans les Antilles. Il reste entier et il est doublé d'une misère structurelle, parce que le taux de pauvreté en Martinique par exemple est deux fois plus élevé qu'en métropole. Les quelques grandes familles qui contrôlent la majorité des commerces qu'on appelle les béquets imposent des prix exorbitants sur l'ensemble des Antilles françaises. Et cette situation d'injustice est d'autant plus frappante avec l'inflation sur un territoire qui importe en fait 87% de son alimentation. Du coup, dans ce contexte-là, la vie chère, elle est indigne. C'est la vie chère et indigne que connaît en Martinique et dans les Outre-mer en général. La politique coloniale de l'État français, elle oblige ces territoires à importer leurs biens de consommation depuis la métropole, via les entreprises nationales, Carrefour par exemple, Auchan et compagnie. Et tout ça malgré une distance immense et en dépit de la proximité des pays de l'espace Caraïbe. Et ça se traduit par l'imposition du modèle capitaliste, la destruction des jardins créoles, la dépendance vis-à-vis de la métropole, et puis l'existence d'un chômage structurel. On vend aux jeunes qu'il n'y a pas d'avenir sur place et qu'il faut donc partir se former en métropole. Tout ça, ça s'inscrit en fait dans un continuum colonial, parce que tout ceci en fait c'est une gestion politique des Outre-mer. Il y a plus de 1 milliard d'euros pour rendre la Seine baignable qui ont été dépensés par exemple, mais il y a toujours des pénuries d'eau potable en Guadeloupe, des prisons et des écoles surchargées, une interdiction de la langue créole sur les documents officiels, une société qui est racialisée, un maintien des monocultures d'exportation coloniale, un empoisonnement de masse et durable au chlordécone, qui est un pesticide qui a été utilisé jusqu'en 1993 dans les Antilles, où plus de 90% de la population est contaminée, des violences policières qui sont hors normes, qui ont été hors normes durant la crise du Covid, des essais nucléaires en Polynésie jusque dans les années 90, un visa spécifique à Mayotte avec les violences et les tirs à balles réelles durant les opérations Wambushu 1 et 2. Et puis bien sûr, tout ça, on sait que l'Outre-mer n'a pas choisi la France, comme en témoigne la contre-révolution coloniale durant les périodes de décolonisation qui s'est traduite par l'écrasement des collectifs et des partis indépendantistes. Et aujourd'hui, 60 ans plus tard, la France est toujours une puissance coloniale, qu'elle a départementalisé ses colonies, et que ce ne soit soit plus des colonies, eh ben ça ne change rien sur le fond. L'État français maintient bien sa présence militaire et ses accords de coopération comme avec l'Afrique. Et donc, nous militants de l'Union communiste libertaire, on peut soutenir inconditionnellement les mobilisations, que ce soit en Martinique ou dans d'autres collectivités d'outre-mer, car nous espérons qu'une condamnation et reconnaissance des responsabilités des béquets et de l'État français dans l'empoisonnement des Antilles au chlordécone, alors qu'un procès est en cours, finira par aboutir, parce que plus que jamais, on peut que dénoncer le colonialisme français et que vivent les peuples en lutte pour l'égalité, la dignité et leur liberté. C'est sur ces mots qu'on voulait terminer cette émission de rentrée d'Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire sur 102.2 de Radio Canu, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h. On vous rappelle aussi les deux rendez-vous. Demain, mobilisation à 18h devant l'hôtel de région de Lyon contre la transphobie. Samedi 21, café libertaire, café débat à la Plume Noire, 8 rue Diderot, librairie libertaire autogérée par les militants et militantes de l'UCL, sur la question du droit à l'avortement, un droit menacé, oui, comment s'organiser pour le défendre et pour le maintenir et même l'élargir. Voilà, c'était Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire, prochaine édition mercredi prochain, 20h sur 62.2 de Radio Canu. Et en attendant, je vous retrouve juste après notre générique pour la bande-son de nos révoltes, émission spéciale d'hommage à Julien Terzic et à la brigade à Flores Magone.
Que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs.